Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Dans l'une des chroniques qu'il consacra à Franz Kafka, Alexandre Vialat, l'un de ses tout premiers traducteurs en français, écrivait « Ce qui est agaçant, c'est qu'on veuille faire de lui un professeur du désespoir ou de l'inutilité de la vie. C'est tout le contraire. Sa nostalgie, sa terre promise, son paradis inaccessible, c'était tout simplement une femme et des enfants, une situation matérielle florissante, qui lui eût acquis le respect d'un père qui le croyait incapable de tout. » C'est à ce père menaçant qu'en 1919, l'écrivain adressait une longue lettre qu'il ne lui remit jamais. Sa lecture éclaire l'œuvre dans son ensemble et contribue, sans doute, à lever bien des malentendus. En mars 1966, pour l'émission « Le livre de chevet », Dominique Rollin lisait « La lettre au père » de Franz Kafka.
Le livre de chevet. Jean-Vincent Bréchignac vous propose « Le livre de chevet » de Dominique Rollin. Ce soir, « Lettre au père » de Franz Kafka, traduction de Marthe Robert.
Je me suis tout aussi peu délivré de toi dans le judaïsme. Là, pourtant, la délivrance eût été concevable en soi, plus même, il eût été concevable que nous nous fussions retrouvés tous deux dans le judaïsme, ou même que nous en fussions sortis unis. Mais que m'as-tu transmis en fait de judaïsme? Au long des années, il m'a inspiré à peu près trois attitudes. Enfant, j'étais d'accord avec toi pour me reprocher de ne pas aller assez souvent à la synagogue, de ne pas jeûner, etc. Par là, ce n'était pas à moi, mais à toi que je croyais faire tort. Et j'étais envahi par la conscience de ma faute qui, de toute façon, était toujours prête à surgir. Plus tard, adolescent, je ne comprenais pas que toi, avec le fantôme de judaïsme dont tu disposais, tu pusses me reprocher de ne pas faire d'efforts. J'aurais dû en faire, ne serait-ce que par piété, disais-tu, pour développer quelque chose de tout aussi fantomatique. Car, pour ce que je pouvais en voir, c'était vraiment une bagatelle, une plaisanterie, pas même une plaisanterie. Tu allais au temple environ 4 fois par an. Tu y étais, à tout le moins, plus proche des indifférents que des convaincus. Tu t'acquittais patiemment de la prière, comme on accomplit une formalité. Et tu m'as bien souvent rempli de stupéfaction en me montrant dans ton livre le passage qu'on était en train de lire. Pour le reste, une fois que j'étais à l'intérieur, c'était là le principal, je pouvais me fourrer où bon me semblait. Je passais donc à bâiller et à rêvasser ces heures interminables. Je ne me suis autant ennuyée, je crois, que plus tard, pendant les leçons de danse. Et j'essayais de tirer le plus de plaisir possible des quelques petites diversions qui s'offraient, comme l'ouverture de l'Arche d'Alliance, laquelle me rappelait toujours ces baraques de tir à la foire, où l'on voyait également une boîte s'ouvrir quand on faisait mouche, sauf que c'était toujours quelque chose d'amusant qui sortait, alors qu'ici, ce n'était jamais que les mêmes vieilles poupées sans tête. Du reste, j'y ai bien souvent aussi connu la peur, et non seulement comme on pouvait s'y attendre, à cause du grand nombre de gens avec lesquels on entrait en contact, mais parce que tu avais dit un jour, en passant, que je pourrais, moi aussi, être appelé à la Torah. J'en ai tremblé de peur pendant des années. Tu as touché plus juste en concevant de l'aversion pour mon activité littéraire, ainsi que pour tout ce qui s'y rattachait et dont tu ne savais rien. Là, je m'étais effectivement éloignée de toi tout seul sur un bout de chemin, encore que ce fût un peu à la manière du ver qui, le derrière écrasé par un pied, cède du devant de son corps pour se dégager et se traîner à l'écart. J'étais en quelque façon hors d'atteinte, je recommençais à respirer. Exceptionnellement, la répugnance que tu ne manquas pas de montrer d'emblée pour mon activité littéraire comme pour le reste me fut agréable. Ma vanité, mon ambition, avaient certes à souffrir de l'accueil devenu célèbre parmi nous que tu faisais à mes livres. Pose-le sur la table de nuit. Lorsqu'il arrivait un livre, en effet, tu jouais généralement aux cartes. Mais au fond, je m'en trouvais bien, non seulement à cause de mon attitude de revendication méchante, non seulement parce que je me réjouissais de voir ma conception de nos rapports une fois de plus confirmée, mais aussi, tout à fait spontanément, parce que cette formule me paraissait signifier à peu près « Maintenant tu es libre ». Bien entendu, c'était là une illusion. Je n'étais pas, ou dans le meilleur des cas, pas encore libre. Dans mes livres, il s'agissait de toi. Je ne faisais que m'y plaindre de ce dont je ne pouvais me plaindre sur ta poitrine. C'était un adieu que je te disais, un adieu intentionnellement traîné en longueur, mais qui, s'il m'était imposé par toi, avait lieu dans un sens déterminé par moi. Mais comme tout cela était peu de chose, si cela vaut la peine d'en parler, c'est uniquement parce que cela s'est passé dans ma vie. Ailleurs, il n'y aurait rien à en retenir. Et aussi parce que ce qui a été pressentiment dans mon enfance, espoir plus tard, et plus tard encore, bien souvent désespoir, a régné sur toute ma vie. Et, si l'on veut une fois de plus, en empruntant ton visage, m'a dicté mes quelques petites décisions. Ainsi, le choix d'une profession. Avec les vues larges et même la patience que tu avais dans cet ordre d'idées, tu m'as laissé entièrement libre. Il est vrai qu'en cela, tu te conformais aussi au comportement général, déterminant pour toi de la petite bourgeoisie juive à l'égard de ses fils, ou que, pour le moins, tu adoptais les jugements de valeur ayant cours dans cette classe sociale. La décision fut encore influencée, en définitive, par l'une de tes erreurs habituelles sur ma personne. De tout temps, en effet, ton orgueil paternel, ton ignorance de mon existence véritable et certaines déductions que tu tirais de la fragilité de ma santé t'ont amené à me croire particulièrement travailleur. Étant enfant, selon toi, je n'ai pas cessé d'étudier et plus tard, je n'ai pas cessé d'écrire. Or, ceci est bien loin d'être exact. En exagérant beaucoup moins, on pourrait dire au contraire que je n'ai guère étudié et rien appris du tout. Il n'y a vraiment rien d'extraordinaire à ce que, avec une mémoire moyenne et une intelligence qui n'était pas des plus médiocres, il me soit resté quelques bribes de ce que j'ai appris tout au long de ces années. Quoi qu'il en soit, comparé à ma dépense de temps et d'argent au milieu d'une vie paisible et extérieurement sans souci, comparé surtout au savoir de presque tous les gens que je connais, la somme de mes connaissances et surtout de ce qui en fait la base est absolument pitoyable. C'est pitoyable mais compréhensible pour moi. Depuis que je suis en mesure de penser, l'affirmation de mon existence spirituelle m'a donné des soucis tellement graves que tout le reste m'a été indifférent. Chez nous, les lycéens juifs tombent facilement dans la bizarrerie. On trouve parmi eux les types les plus invraisemblables. Mais cette indifférence qui était la mienne, cette indifférence froide, à peine déguisée, inaltérable, brutalement contente d'elle-même, qui, chez un enfant déjà suffisamment fantasque en soi, mais froidement fantasque, se condamnait elle-même à l'impuissance et allait jusqu'au ridicule. Je ne l'ai plus jamais rencontrée nulle part. Il faut bien dire aussi que dans mon cas, elle était l'unique protection possible contre un délabrement nerveux provoqué par l'angoisse et le sentiment de culpabilité. Absorbée, je ne l'étais que par mon inquiétude au sujet de ma propre personne. Mais cette inquiétude affectait les formes les plus diverses. Par exemple, je m'inquiétais de ma santé. Cela a commencé de façon anodine. J'étais prise çà et là d'une légère crainte à propos de troubles digestifs, de la perte de quelques cheveux, d'une déviation de la colonne vertébrale, et ainsi de suite. Puis, cela s'aggrava, suivant d'innombrables degrés, pour finir par une vraie maladie. Mais comme je n'étais sûre de rien, comme j'attendais de chaque instant une nouvelle confirmation de mon existence, comme il n'y avait rien qui fût en ma possession réelle, incontestable, exclusive et déterminée par moi seul, sans équivoque, comme j'étais en somme un fils déshérité, je me pris à douter aussi de ce qui m'était le plus proche, de mon propre corps. Je poussai tout en hauteur, mais je ne sus que faire de mon corps. La charge était trop lourde, mon dos se voûta. J'osai à peine bouger, encore moins faire de la gymnastique. Je restais faible. J'admirais comme une merveille ce dont je disposais encore, ma bonne digestion par exemple. C'était suffisant pour la perdre, et c'est ainsi que le chemin de l'hypocondrie se trouva libre jusqu'au moment où, épuisé par l'effort surhumain que m'imposait ma volonté de me marier, je me mis à cracher le sang. Résultat qu'on peut sans doute attribuer pour une bonne part à mon logement du palais Schönborn, et que je peux mentionner dans cette lettre, puisque si j'ai tenu à avoir ce logement, c'est uniquement parce que je le croyais nécessaire à mon travail littéraire. Tout cela n'a donc pas été provoqué par un excès de travail, ainsi que tu te l'es toujours imaginé. Il y a eu des années où, en pleine santé, j'ai passé plus de temps à traîner sur le canapé que tu ne l'as jamais fait dans ta vie entière, en comptant toutes tes maladies. Quand je te quittais en courant, l'air excessivement affairé, c'était généralement pour aller me coucher dans ma chambre. La somme totale de travail que j'ai produite, tant à la maison qu'au bureau, où, certes, la paresse n'attire guère l'attention, et la mienne était tenue en lisière par mon caractère timoré, est infime. Si tu en avais un aperçu, tu serais épouvanté. Il est probable que la paresse n'était pas dans ma nature, mais je n'avais rien à faire. Là où je vivais, j'étais rejeté, condamné, écrasé, et quoique je fisse vraiment les efforts les plus désespérés pour trouver un refuge ailleurs, ce n'était pas là un travail, il s'agissait d'une tâche impossible qui, à quelques petites exceptions près, n'était pas à la mesure de mes forces.
Dominique Rollin a lu ce soir un extrait de « Lettre au père » de Franz Kafka, traduction de Marthe Robert. C'était « Le livre de chevet de Dominique Rollin », une émission de Jean-Vincent Bréchignac. Assistante de production, Janine Antoine.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 16 mars 1966. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.